Pendant cette première phase de déconfinement, France Culture vous propose de réentendre un certain nombre de bonnes choses. L'émission qui va suivre a été diffusée initialement le 1er septembre 2019 et comme vous allez l'entendre, elle n'a rien perdu de son actualité. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes compris, un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Everna, partenaire de Ces Bonnes Choses et directeur de la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale. Cher Pierre Everna, bonjour.
Bonjour Caroline.
Chaque dimanche en fin d'émission à 12h25, vous nous proposez la chronique La cerise sur le gâteau. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler d'un livre, son titre, Cause animale, cause du capital.
Matteo Caranta est avec nous, bien évidemment. Bonjour Matteo.
Bonjour.
Alors, la madeleine du jour, c'est-à-dire le souvenir gustatif d'une personnalité, qui donc ?
Eh bien, pour cette madeleine, nous avons rencontré le virtuose du jazz, Christophe Chassol.
Stéphanie Villeneuve et Jean-Christophe Francis sont toujours en régie, accompagnés aujourd'hui d'Alexandre Dang à la prise de son. Et c'est avec des étoiles et des épices qu'on va commencer. Les étoiles, il en a eu 3 pendant plusieurs années, ce qui a consacré sa cuisine comme l'une des meilleures du monde. Les épices, il en a fait son univers, sa passion et sa spécialité. Aujourd'hui, il se bat pour une alimentation bonne pour tous et il fustige la malbouffe dans un livre qui se présente comme le manifeste d'un homme en colère. Olivier Rollinger est notre invité.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop. Papa Mambo.
Bonjour Olivier Rollinger.
Bonjour.
Bienvenue à vous.
Merci.
Vous vous souvenez de cette chanson d'Alain Souchon, 1978?
Oui. Comme quoi, il avait déjà tellement raison.
On mange trop ou on mange mal ?
Ben, on mange à la fois, probablement, oui, sûrement trop, mais surtout très mal. Et il faut voir simplement les dernières statistiques concernant la pandémie d'obésité, en particulier auprès de notre jeunesse. Quoi.
C'est une étude du ministère de la Santé qui montre que près de 20%, un quart des adolescents français sont en surcharge pondérale ou obèses. Effectivement,
oui.
Ça fait peur.
Oui, ça fait peur, mais ce que je trouve un petit peu dramatique, c'est que les hautes autorités en font le constat uniquement maintenant, alors que depuis pratiquement justement cette date de la chanson d'Alain Souchon, on sait pertinemment que cette pandémie, l'obésité c'est une chose, mais ce sont toutes les maladies collatérales liées à cette obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, et l'alimentation évidemment. Alors on nous dit, il suffit de bouger un petit peu plus et de faire un petit peu de sport et puis ça va se passer. Non, pas du tout. Il y a une véritable dérive alimentaire, tout simplement parce que il faut absolument sortir des griffes de l'agroalimentaire, ce trésor de l'humanité qu'est l'alimentation. Or, depuis maintenant près d'un demi-siècle, on a laissé à l'agro-business le soin de nourrir les pays occidentaux et plus particulièrement la France.
C'est ce que vous dites, Olivier Rollinger, dans votre livre « Pour une révolution délicieuse ». Vous empruntez ces termes à une chef cuisinière de Californie, Alice Waters.
Une amie, grande cuisinière américaine, tellement amoureuse de la France, justement, Alice Waters, qui a la première parlé de Delicious Revolution, et moi j'ai voulu absolument... Alors évidemment c'est avec son accord que j'ai pu utiliser cette forme d'oxymore presque. Voilà, j'en suis très heureux. Pourquoi ? Parce que c'est surtout une révolution, c'est surtout pas... Bon, on va pas dresser le bilan alarmiste effectivement de... ce qui se passe. Il est déjà fait, on le connaît, au niveau de la terre, au niveau des océans, au niveau des nappes phréatiques, au niveau des océans plus particulièrement. Mais c'est surtout présenter de quelle manière on pourrait faire évoluer notre alimentation, mais pour que cette cuisine, cette alimentation devienne avant tout éthique, mais surtout joyeuse. Parce qu'il faut surtout reprendre le plaisir de bien manger. C'est surtout pas de présenter des choses que nutritionnistes ou de défenseurs extrémistes d'un environnement. Moi, c'est pour la joie, c'est pour le bonheur, c'est pour faire respirer l'âme. Et là encore, ce que j'ai présenté là, moi je suis ni un politique, ni quelqu'un qui cherche, mais je l'ai fait pour mon petit-fils. Je me devais de le faire. Je ne prétends pas détenir une vérité.
Vous voulez dire qu'il va déjà le lire, votre livre?
Mais j'ai déjà une photo où il feuillette, vous voyez. Et c'est pas une leçon de morale, c'est plus un témoignage, presque une adresse que je souhaite faire partager, parce que la situation est trop grave. Il y a 50 ans, j'avais juste 14 ans, ce qui faisait l'actualité de la télé noir et blanc et de tous les journaux, objectif lune. L'espace, la conquête de l'espace. Aujourd'hui, les enfants de 14 ans, l'objectif, c'est de tenter de sauver la planète. Mais notre planète. Mais quelle différence ? Parce que la planète, elle est avant tout notre garde-manger. Que ce soit de la Terre, des océans, on sait très bien qu'elle est en danger. Et les solutions existent. Sauf que des lobbies sont là en place pour nous empêcher de faire évoluer notre alimentation.
Est-ce que c'est pas un peu caricatural de présenter les choses comme ça? Les lobbies sont là pour nous empêcher de bien manger,
exactement.
Olivier Rollinger?
Oui, exactement. Je dis parce que aujourd'hui, la prise de conscience de l'éveil alimentaire, c'est-à-dire, moi, j'ai la chance d'être à la fois avec les plus grands cuisiniers du monde, puisque je suis élu en tant que vice-président international des Relais et Châteaux, mais je suis aussi en contact avec ces gens que l'on dit de peu, qui pour moi sont de tout, que sont ces petits producteurs d'épices. Nous travaillons avec 1200 petits producteurs dans le monde. Et cette prise de conscience de l'éveil alimentaire est planétaire. Et puis, c'est pas simplement une espèce de...
Ça, c'est un espoir quand même.
Mais bien sûr que c'est un espoir. Oui, mais donc il y a la prise de conscience, mais alors comment allons-nous faire?
Et qui doit agir aussi? Le citoyen, le cuisinier, le politique, tout le monde à la fois?
Un petit peu tout le monde, mais vous savez très bien que justement, le politique, on dit toujours que les politiques sont sous le joug des lobbies. Donc à nous, les citoyens, de demander à nos politiques de ne pas hésiter et de franchir le pas pour tout d'un coup écarter ce vieux monde où on a considéré, on a tous une part de responsabilité, que avant tout, ben, le cahier de recettes de cuisine que l'on avait à la maison, on l'a foutu au fond d'un placard ou au fond d'un tiroir, et que le progrès et une forme d'émancipation, c'était de pousser un caddie dans un supermarché. On s'aperçoit qu'on est au bout du bout et que c'est une catastrophe. Parce que la catastrophe, elle se présente de cette manière. L'alimentation, se nourrir, est au carrefour des enjeux de nos sociétés. Et là, on trouve des enjeux socio-économiques. On voit dans quel état est l'agriculture française, avec quand même un revenu moyen de nos agriculteurs de 300 euros, avec un certain d'entre eux qui vont jusqu'à l'ultime, c'est-à-dire de se suicider. C'est impasse. On voit enjeux environnementaux, quand on voit la casse, on l'a déjà dit, au niveau des océans, de la planète, de l'air. Les conséquences au niveau du réchauffement climatique, on nous parle... Évidemment, par rapport à l'énergie, de changer les huisseries, la chaudière, le transport. Mais l'alimentation, personne n'en parle. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, enjeu culturel, très important. Et puis peut-être, et c'est ça l'important, c'est enjeu de santé publique. On est le pays des droits de l'homme. On se targue lorsqu'on va à l'étranger, Françaises et Français que nous sommes, d'avoir une cuisine somptueuse, d'avoir des produits merveilleux. Très bien. Et si on pouvait devenir le premier pays du droit du bien manger? Dans l'étude qui a été faite sur les gens qui sont sous le seuil de pauvreté en France, leur première préoccupation, et de loin, c'est pas l'éducation, c'est pas la santé, c'est la prise de conscience qu'ils se nourrissent mal.
Oui, sauf que le budget aujourd'hui pour ces familles-là a terriblement baissé dans la part générale de l'économie des citoyens français.
Bien sûr, et on veut faire croire que...
C'est plus une priorité.
Bien sûr, mais on veut aussi nous faire croire que s'alimenter, d'ailleurs c'est même le slogan de certaines grandes surfaces, grâce à moi, je ne vais pas citer le nom de ce grand patron, grâce à moi les pauvres peuvent se nourrir. Mais c'est absolument scandaleux de dire une chose pareille. D'abord parce que ce grand patron a asphyxié un grand nombre d'éleveurs, de producteurs et d'agriculteurs. Et de l'autre côté, c'est de faire croire qu'un produit tout préparé va être moins cher qu'un plat cuisiné.
C'est pas vrai ça?
C'est totalement faux. Mais quand on voit un plat préparé, c'est avant tout du gras, du sel, du sucre, des arômes de synthèse et des texturants. Mais reprenons simplement dans le plaisir de cuisiner. Alors on va dire que c'est un problème de temps.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a un problème de coût, souvent, c'est ce qu'on dit. On va vous rétorquer, mais oui, Olivier Rollinger dit ça, mais il y a un problème de coût.
Il est dans les châteaux, il est là, il est dans un... Non, non, mais justement...
Parfois aussi, un risque de régression pour les femmes, si vous dites on prône le retour aux cuisines des Françaises et des Français.
Justement, alors parlons...
C'est trois arguments majeurs.
Mais alors, prenons le premier, la notion des femmes. Évidemment, moi je fais partie de cette génération des 68 ans. Quelle formidable avancée que les femmes aient pu prendre leur autonomie professionnelle, sociale, sexuelle, afin que les femmes aient pu totalement s'émanciper.
Grâce au surgelé, grâce à l'hypermarché, vous voulez dire ?
Et on peut comprendre, parce que depuis la nuit des temps, les hommes ont collé le ventre des femmes aux fourneaux et aux éviers. Donc on comprend qu'elles aient pu réagir comme ça en disant « Attends, vous êtes bien gentils les gars, mais vous maintenant la cuisine que faisaient ma mère, ma grand-mère, ma tante, c'est terminé. Moi je veux vivre. » On peut le comprendre. Oui, mais depuis la nuit des temps, quand les femmes nourrissaient le monde, vous comprenez bien que la finalité en cuisinant, c'était, vous savez, c'est la fameuse phrase d'Aristote, si l'amour c'est ce premier acte pour faire du bien à l'autre, alors la cuisine est le premier acte d'amour. Et ces femmes... C'était prolonger la vie en étant économe, avec des produits de saison, avec des produits locaux, mais d'une manière naturelle et évidente. Mais aujourd'hui, j'invite surtout les hommes à cuisiner. Et simplement pas monsieur qui cuisine le samedi soir, on en parle 15 jours avant et on va en parler 3 semaines après, parce que monsieur a fait un repas alors que madame cuisine toute la semaine.
Vous dites la cuisine faite au quotidien par les femmes et les hommes est une des clés de la transition écologique qui s'impose à nos sociétés. Donc c'est quelque chose de très très fort. Vous plaidez également, Olivier Rollinger, pour des cours de cuisine ou d'éducation alimentaire obligatoire à l'école. Oui. Le retour aux leçons de choses.
Oui, c'était à la suite d'une discussion avec Michel Guérard qui s'est beaucoup investi sur la cuisine de santé. Et effectivement, puisque maintenant, depuis des décennies, on a confié à l'industrie agroalimentaire de nous nourrir avec comme première finalité le profit. Ce qui n'est pas du tout le cas d'une cuisinière lorsqu'on cuisine à la maison. Ce n'est pas le profit. Et on va l'en vouloir. Mais c'est là où je dis, l'alimentation ne devrait pas être une industrie. Au même titre que l'agriculture non plus. Parce que là, on parle du vivant, on parle du vivant de la nature, mais on parle du vivant et de la santé des hommes et des femmes. Cette approche est pour moi une impasse. Donc, il faut absolument recuisiner. Et il faut bien comprendre que si les enfants, l'éducation alimentaire, la France, pays des droits de l'homme, devrait le prix du droit de bien manger. Et au même titre que John Fitzgerald Kennedy, lorsqu'il s'est rendu compte de la pandémie dans la jeunesse à l'époque, il a demandé dans son programme, il a demandé à ce que dans toutes les écoles, il y ait des formations et des professeurs d'éducation physique. On lui a dit, je rappelle, que des écoles privées. On lui a dit, mais il est fou, on va construire des gymnases, on va devoir former des professeurs d'éducation physique. Mais pourquoi, nous, dans nos écoles, on ne pourrait pas apprendre aux enfants à bien manger comme on apprend à lire, à écrire, à marcher? Il faut bien comprendre que à travers l'alimentation, on peut... expliquer ce qu'est un potager, ce qu'est le vivant, ce qu'est un œuf, ce qu'est une graine.
C'est de la géographie, c'est de l'histoire, c'est de la culture.
On va comprendre pourquoi un enfant il mange halal, l'autre il mange kasher. On va pouvoir. Mais c'est les sciences humaines, c'est l'histoire, c'est la géographie, c'est tout simplement former quelqu'un qui. Et je pense surtout aujourd'hui à ces jeunes couples qui vont jusqu'à même dire non, le monde est tellement foutu que nous n'aurons pas d'enfants. Eh bien, il faut au contraire entrer en résistance, il faut au contraire avoir un souffle d'espoir, parce que ce vieux monde est en train de disparaître, et le monde aujourd'hui, cette jeunesse est en train de présenter une renaissance. C'est effectivement la fin d'un monde qui s'effondre comme une grande falaise, mais c'est une renaissance, et de toute manière, le village-monde est là, et il faut simplement dégonfler cette obsession du profit pour retrouver un peu plus de solidarité.
Vous restez avec nous surtout. Ouais. On va entendre la Madeleine de Chassol par Matteo Caranta.
J'ai dit à mon mari, une fois par mois, c'est peu. Une fois par jour, c'est beaucoup. Alors nous nous sommes mis d'accord. Deux fois par semaine.
Eh oui, du poisson, deux fois par semaine.
Ça, c'était le clin d'œil aux Bretons que vous êtes. On y reviendra tout à l'heure. Alors, Matteo Caranta, vous nous parliez donc de Chassol.
Oui, pour cette première Madeleine, on s'est rendu chez le pianiste et compositeur Christophe Chassol, qui ne préparait pas une Madeleine. Alors, Christophe Chassol, il crée ce qu'il appelle des ultrascores. C'est des morceaux de jazz où des voix, des klaxons de Calcutta et des sifflets de la Nouvelle-Orléans se fondent et s'assemblent pour créer une symphonie assez groove, en ternaire. Mais alors, Chassol joue souvent avec les animaux, avec les oiseaux. Mais sa Madeleine, à lui, elle est aquatique et elle baigne dans la mayonnaise.
c'est tout simplement des crevettes, peut-être géantes, avec une super maillot. Mes parents, qui étaient antillais, ramenaient souvent des langoustes qui congelaient en fait, et on les prenait dans l'avion pour revenir de Martinique en France. Et ils mangeaient ça pour les occasions spéciales. Mais moi, j'ai mis vachement de temps à aimer la langouste. En fait, j'aimais pas parce que c'était compliqué à dépiauter. Dans les pâtes, je trouvais jamais assez de chair. Et puis, j'aimais pas avoir les doigts sales. Et puis, je suis passé. C'était très jeune. Hein. J'ai goûté des crevettes et c'était beaucoup plus facile à dépiauter. J'avais toujours les doigts sales, mais je m'organisais différemment. Je me suis commencé à m'organiser un peu grâce à ma sœur qui m'avait appris à organiser l'épluchage des agrumes. Elle enlevait la peau de la clémentine. Ensuite, elle enlevait la peau autour de la clémentine et elle foutait tout ça dans un bol et ça faisait un amas de chair, quoi. Vraiment le cœur du truc, la pulpe, le jus, le truc qu'on peut presser comme ça, tu vois, qu'on peut presser, ça, tu les presses entre tes deux doigts et ça explose et il y a du jus qui explose et t'as encore la petite peau sur le bout du pouce, tu vois. Et là, tu peux en prendre à plein de bouchées. J'ai pas envie d'avoir juste une petite crevette comme ça que je déguste. J'en veux avoir la bouche pleine de crevettes et de maillots. Donc moi, je fais mes crevettes, je dépieute tout, j'en goûte pas une seule. La tête, d'abord. Ensuite, là, avec le pouce, la première, disons, phalange, je sais pas comment dire. La deuxième, la troisième, puis la queue. Et donc voilà, je remplis plutôt un bol de crevettes bien charnues, tu vois. Et c'est un amas de chair moelleuse. Et quand tu rajoutes de la mayo, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans le mélange palais, dans le mélange humidité de la bouche, moelleux de la crevette et la mayo qui fait le tour de tout ça, quoi. Si j'avais les goûts que j'ai en bouffe, en musique, je serais un piètre compositeur. Donc j'ai pas un goût très affûté sur la nourriture. Donc la nourriture industrielle, j'ai appris à l'aimer. Une mayo industrielle me va très bien. Mais là, récemment, j'étais en Corse, il y avait un cuisinier, il m'a fait une mayo pour un plat de crevettes, comme ça, géante. C'était incomparable. Je mange pas la tête, mais je mange l'amorce de la chair. On retrouve un peu de chair au début de la tête, pas vers les antennes, enfin, vers le bas, il y a un peu de chair. La chair, elle a une belle couleur aussi. Elle est parcourue de petites nervures à des moments aussi qui sont justement orange clair, orange foncé. Et puis il y a aussi les excréments. Il y avait une nièce à moi qui a 10 ans et qui me fait « Ah, mais c'est quoi ça, la base de la tête ?» Je dis « Mais il y a un peu de chair, mais il y a aussi le caca de la crevette. » Elle me fait « Ah, c'est dégoûtant, tu viens de me dégoûter des crevettes. » Et j'étais content parce que ça en faisait plus pour moi.
Merci Matteo Caranta pour cette Madeleine de Chassol. On va demander au Breton, oui. Olivier Rollinger, comment il a entendu ce rapport aux crevettes, cette façon de manger les crevettes, d'abord des crevettes géantes à la mayo.
D'abord, je trouve que c'est une approche presque très sensuelle. Il déshabille une crevette, manifestement, au départ. Et la notion de quantité comme ça, c'est surtout, évidemment, moi, c'est le bouquet de Chauzet ou la crevette grise de la baie du Mont-Saint-Michel, la baie de Cancale. Et on les décortique une par une comme ça et on les met sur une superbe tartine au levain et puis avec un beurre salé dessus et on va toutes les poser les unes comme ça et on va avoir vraiment là la tartine de pain, beurre, crevette grise. Ça, il n'y a rien de plus divin.
Puisqu'on est sur les produits de la mer et tout un chapitre est consacré à la pêche, ouais. électrique, aux difficultés aujourd'hui pour les pêcheurs et puis pour les mangeurs de poissons, ouais. de profiter du poisson avec toutes les difficultés dont vous avez parlé sur les océans notamment. Est-ce que vous qui avez poussé un coup de gueule au mois de juillet contre les tomates et les fraises, notamment en serre chauffée, dans votre combat contre l'alimentation industrialisée ou standardisée, est-ce que les crevettes, les fruits de la mer, sont aussi maltraités que le sont les poissons ?
D'abord, ils sont tellement maltraités qu'il n'y en a plus. Un grand chercheur du CNRS dit, de toute manière, la mer va devenir un désert liquide. Aujourd'hui, on pêche 100 millions de tonnes de poissons. 40% des poissons qui sont pêchés ne sont pas ramenés à terre. Ils sont jetés immédiatement parce que ce n'est pas l'espèce qu'on était venu chercher. 35% des espèces qui étaient pêchées ont déjà disparu. Les stocks sont dans un état épouvantable. Et l'autre chiffre qui est aussi catastrophique, c'est que 5% des pêcheurs font 95% des prises. Donc c'est absolument monstrueux. Mais les gens se rendent pas compte, parce qu'on se rend compte ce qui se passe au fond de la mer lorsqu'elle est vide, il y a plus rien, et alors lorsqu'elle était vivante, il y a pas de différence. Mais la mer est évidemment en danger, les océans ont été totalement pillés. Et il nous appartient, nous les cuisiniers, justement, de mettre en avant des poissons dont les stocks sont parfaitement en état, et de faire appel à un poisson durable. Qu'est-ce qu'un poisson durable? Le stock en état, taille minimum pour qu'il ait pu se reproduire, technique de pêche pas intrusive, et enfin sa saisonnalité. Et par exemple le chinchard. Le chinchard est un poisson que nous on donnait presque au chat, il n'était pas pêché. Et nos amis japonais considère que c'est un des meilleurs poissons crus. Comment se fait-il que dans tous ces établissements à sushi où tout, on veut tous faire du poisson cru, personne ne demande du chinchard? Et dont la filière pêche a demandé à nos pêcheurs de ramener du chinchard, parce que jusqu'ici, ils ramènent à peine. On va faire des économies parce que ça va être un poisson qui est pas onéreux. Donc on a un vrai rôle à jouer sur de quelle manière sensibiliser. C'est pour ça que les cuisiniers, et surtout lorsqu'ils commencent à avoir un peu de renom, il faut qu'ils sortent de leur obsession d'étoiles, de toques et de trucs et de machins.
Ce que vous avez
de savoir
fait,
leur producteur,
hein, il y a 10 ans.
Et surtout de présenter le cercle vertueux. Alors on va dire, oui, c'est pour l'élite, ces choses-là. Mais si nous, on le fait pas, mais qui va le faire?
Olivier Rollinger, qu'est-ce qu'il en est des épices, qui est quand même votre passion?
Ah ben les épices,
d'abord
les épices,
spécialité,
enfin les épices, me souviennent.
Le poivre,
parce que moi je suis né dans une maison qui avait été construite par des chasseurs d'épices, et j'ai tenté dans ma cuisine de traduire l'esprit d'aventure du pays de Saint-Malo, breton, réussir pour nous c'est partir, traduire cet esprit d'aventure en utilisant des épices, mais en utilisant des épices en... Parce que là j'ai appris ça avec toutes ces communautés à travers le monde, l'épice ne s'utilise jamais seule. Juste vous rappeler, une recette de cuisine française, une multitude d'ingrédients, réalisation, une multitude de techniques. Et puis, alors, le dernier chapitre, assaisonnement. Deux petits mots, sel, poivre. Mais le monde, la dame nature, elle nous a donné des fragrances, des parfums extraordinaires.
Le poivre, c'est la mère de toutes les épices?
C'est la perle noire. En tous les cas, si les Européens ont, en l'espace de 30 ans, si on met de côté l'Australie, ont découvert le monde, c'était à la recherche de la perle noire. Ils sont même tombés sur un gros caillou, puisque c'est 1498, ils sont même tombés sur un gros caillou entre-temps, en 1492, pensant que c'était les Indes, le pays du poivre. Et Christophe Colomb, mon Dieu, qu'il était déçu, ce foutu caillou, il a trouvé que du piment, de la vanille et du cacao.
Et les lecteurs de votre livre, Olivier Rollinger, pour une révolution délicieuse, apprendront beaucoup de choses sur... Le poivre, je sais même pas comment on le prononce en fait. Le Nilamundi,
oui, alors
c'est un peu votre préféré.
Oui, parce que le poivre, les gens pensent qu'il y a le poivre blanc, le poivre noir.
Point barre.
Mais alors que le poivre, c'est comme les pommes, c'est comme les pommes de terre. Il y a des multitudes de variétés de poivre. Moi, simplement dans le sud de l'Inde, qui est le pays endémique du poivre, on est à 22 variétés de poivre de Piper Negrum. Et un des meilleurs, effectivement, est le Nilamundi, qui allait disparaître. Et je pense avoir fait partie de ceux qui ont permis de sauver cette variété de poivre.
Allez, on va écouter la cerise sur le gâteau. Quelle cerise sur le gâteau aujourd'hui?
Je vais vous parler de la viande philosophale que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez très certainement connaître à travers ce livre qui s'appelle « Cause animale, cause du capital » et dont l'autrice est Jocelyne Porcher. Alors c'est un petit livre qui vous prendra moins de 2 heures de lecture et qui ouvre de grandes pistes de réflexion sur nos devenirs de mangeurs de viande, ce qui concerne, rappelons-le quand même, plus de 95% de la population française. D'ailleurs, d'emblée, amis végétariens et véganes, si vous pensez trouver chez Jocelyne Porcher quelques arguments pour dégommer la barbe et tous ses effets néfastes, oubliez, vous êtes déjà en retard d'un combat. Ce livre démontre que la disparition à plus ou moins long terme de la production de viande telle qu'on la connaît est un fait déjà largement anticipé par les plus grandes forces capitalistiques de la planète. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Jocelyne Porcher remet avec grande intelligence quelques pendules sémantiques à l'heure. À commencer par cette expression qu'elle qualifie, je cite, d'oxymore dépourvu de sens et que l'on emploie, il faut bien le dire Caroline, à tour de bras, y compris dans notre émission, élevage industriel. C'est vrai qu'on sent bien que élever un animal, c'est ad minima le respecter, le voir grandir, garantir sa saine nourriture et son bien-être. Et que faire passer cette activité en phase industrielle, c'est fatalement contraire à son objet originel. Alors sur cette bonne base, Jocelyne Porcher nous livre un scénario qui n'est pas une fiction. Acte 1.
Nous voilà tous, à plus ou moins long terme, fort dégoûtés de la production industrielle de viande. Au menu des forces en présence, les lanceurs d'alerte type L214 qui balancent leurs vidéos cachées d'abattoirs, les images de volailles en batterie bourrées d'antibiotiques et leurs œufs sans goût, le gavage des oies en direct et quelques pestes porcines en prévision pour faire bonne mesure. Acte 2. Les industriels comprennent que leur modèle prend l'eau et se disent que ce ne sont pas quelques vrais éleveurs écolos qui nourriront à bas prix une planète où la demande de produits animaux augmente, notamment en Chine. Ils mettent en place de puissants départements de recherche et développement pour inventer des produits de demain qui rapporteront autant et, si possible, plus que les produits d'hier. Acte 3. Quand on est un industriel de la viande, on travaille sur des modèles économiques de masse et on dispose aujourd'hui de deux pistes au potentiel énorme. La viande cellulaire cultivée à partir de cellules animales et la fausse viande fabriquée à partir de composants végétaux. Avantage majeur des deux, excite l'élevage. Résumé par le PDG du groupe suisse Bellfood, producteur et distributeur de viande qui emploie, tenez-vous bien, 12 000 personnes et qui est cité par Jocelyne Porcher, ça donne, je cite, « la demande de viande continue d'augmenter et l'élevage traditionnel est incapable d'y répondre. Nous croyons que cette technologie peut être une véritable alternative pour les consommateurs soucieux de l'environnement. » Acte 4, donc, entendez que le consommateur est désormais forcément soucieux de l'environnement et que l'on saura faire grandir sa culpabilité. Et la boucle est bouclée. La grande force de Jocelyne Porcher, c'est d'avoir recensé de manière quasi exhaustive les entreprises du monde entier qui préparent notre avenir néo-carnivore dans un long chapitre intitulé « Des startups, des milliardaires et des multinationales ». Je vous garantis que c'est vertigineux et l'on sait désormais que le nouveau mot-clé des chefs d'entreprise qui va remplacer l'oxymore élevage industriel, c'est « clean meat », en français, la viande propre.
Vous nous rappelez le titre, l'auteur et la maison d'édition ?
Cause animale, cause du capital, un livre de Jocelyne Porcher, aux éditions Le Bord de l'eau, et ça va vous coûter 12 euros, et ça vaut le coup.
Oh, c'est tout. Merci beaucoup Pierre Hiverna. Cette chronique est à retrouver sur le site d'Alimentation Générale que vous dirigez, et sur notre site franceculture.fr. Un grand merci à vous, Olivier Rollinger, d'être venu infiniment. Nous voir merci. Aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Des bonnes choses qui se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe vous souhaite non seulement un excellent dimanche à l'écoute de France Culture, mais un excellent repas si vous allez passer à table. Dans un instant, ce sera le journal.